Vincent Gratton est avec nous pour revenir tout d'abord. Bonjour Vincent.
Bonjour Marie-Claude.
Pour revenir sur cette tragédie, cette histoire de l'affaire Carpentier, la mort tragique des deux petites filles. Quand on l'a appris samedi, moi j'ai pleuré, j'étais tellement à l'envers. Parce qu'on dirait que, je pense que comme les recherches poursuivaient depuis déjà deux jours, on était déjà attachés à ces enfants-là.
Ah oui, tu as tellement raison. Toute cette histoire nous ébranle tant, nous bouleverse tant.
Complètement.
Là, écoute, puis j'entendais tantôt le point de presse, la conférence de presse de la maman. Écoute, j'étais chez moi, je pleurais. Là,
c'est à la limite du supportable. Tu sais, sa peine ne possède pas de mots.
Puis on ne peut qu'offrir nos sympathies, mais les plus douces pensées à la maman, à la famille, aux amis. Moi, je demeure évidemment très prudent là, dans le cas de l'affaire, de cette affaire-là, puisque cette histoire est non résolue. Que s'est-il passé?
Tout à fait.
Comment sont-elles décédées, ces deux jeunes filles-là? Mm-hmm. Il serait, je pense, déplacé puis irrespectueux. Je commençais à parler à travers des hypothèses, mais ce drame familial s'ajoutera à tous les autres drames familiaux, tragédies terribles qui reviennent régulièrement nous hanter. Tu sais, je regardais les dates s'empiler dans le Journal de Montréal, tu sais, 22 octobre, 16 novembre, 11 décembre, 25 décembre, 16 janvier. Juste là, 4 enfants, 4 femmes, 3 suicides. Puis les drames se sont poursuivis. Comme si les drames familiaux s'inscrivaient au fil des jours, un autre, puis un autre, puis un autre, puis on oublie. Puis parfois, il y a des drames comme l'affaire Turcotte qui nous frappe soudainement, puis là, ça se poursuit, puis on oublie. Puis là, c'est l'affaire Carpentier. On verra ce que l'enquête révélera, mais personnellement, c'est dur. Écoute, je sais pas si t'es comme moi, mais il y a un tel sentiment d'impuissance.
Ah, c'est effrayant. C'est effrayant. Puis je n'irai pas dans tous les détails de ce que je ressens, parce que je vais juste nous rebrasser tout le monde encore plus, puis ça me tente pas. Mais
C'est pour ça que je suis un peu plus personnel, je te dirais, aujourd'hui. De mon côté, le père, l'homme, est très ébranlé. Puis, tu sais, vendredi, je te parlais du fameux moment de désespérance que j'avais vécu sans entrer dans les détails, tu sais. Mm-hmm. Puis, je l'ai vécu, ce moment-là, suite à une rupture. En fait, c'était pas tant la rupture amoureuse que cette idée que je ne pourrais plus voir mes enfants quotidiennement. Pour moi, c'était comme la fin du monde.
Ouais.
Puis je pensais que ma vie était finie. Moi, j'ai été aspiré par ça, par cette énergie-là, ce qui m'a amené, moi, à aller chercher de l'aide, à parler, à rencontrer d'autres gars qui avaient traversé des épisodes comme ceux-là. C'était mon devoir de rentrer dans ce processus-là, exactement comme le disait ton avocate tantôt.
Elle était merveilleuse, cette avocate, hein, parce que, elle dit, prendre soin de ses enfants, aimer ses enfants, c'est aller chercher de l'aide quand on se sent pas bien.
C'est un devoir. Puis évidemment, j'aurais évidemment jamais fait mal à mes enfants, mais moi, il fallait que j'aille chercher de l'aide. Il fallait que j'accepte d'aller au fin fond de moi, dans mes monstres, là. Puis moi qui pensais ne plus être capable d'aimer à ce moment-là, ben j'ai réappris à aimer. Puis moi qui avais deux enfants, ben j'en ai 4 maintenant. Puis le fait d'aller me mettre les pieds en thérapie puis en recherche de toutes sortes, ben ça fait en sorte que si j'avais à revivre une situation comme celle-là un jour, je serais équipé. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis impliqué avec le regroupement de la valorisation de la paternité, qui fait tout un travail pour valoriser le rôle du père puis qui donne aussi des références si tu pognes le mur. Si tu as des comportements violents, inadéquat, une dépression, il y a des ressources. Et puis c'est pour ça que je me suis impliqué aussi par la suite dans le réseau des maisons oxygènes qui permettent de donner un répit à des papas puis à leurs enfants qui vivent des moments plus difficiles. Donc, les pères qui sont en situation de vulnérabilité vont y trouver un soutien, un hébergement temporaire avec les enfants ou non. Puis c'est essentiel que ces ressources-là se développent, de les offrir à un plus grand nombre d'hommes. Les boys doivent se parler, mais toute la réflexion que je faisais, Marie-Claude aussi, je pense que cet événement-là peut nous interroger sur nos propres façons de vivre une rupture, parce que visiblement, c'est ce qui semble s'être produit.
Mais en même temps, la rupture était déjà faite, puisque lui était déjà avec quelqu'un d'autre. C'était post-séparation, cette histoire-là, de ce qu'on comprend, là.
Bien, c'est sûr. Puis c'est pour ça que je veux pas rentrer dans ce scénario-là.
Non, c'est parce qu'il manque trop d'éléments.
Il manque trop de détails, mais quand un drame comme ça se produit, moi, ma position, c'est comment je peux me servir de ce drame-là pour, plus que ça arrive, ou pour interroger quelque chose? Puis, à un moment donné, je pensais à ça. Combien d'ex se retrouvent devant des avocats pour conclure leur deal de divorce ou de séparation plutôt qu'une médiation? Mm-hmm. Mais surtout, combien d'ex vont éventuellement prendre des enfants en otage, vont manipuler les enfants pour rendre la vie de son ex un peu invivable?
Tout à fait.
La vengeance.
L'aliénation parentale.
Ben, il y a tant d'histoires où les enfants se retrouvent manipulés à travers des guerres de divorce ou des peines d'amour. La personne blessée veut faire payer son ex. Et c'est à ça que je pensais ce week-end, à toutes ces tragédies où les manipulations quotidiennes peuvent venir bousiller la vie d'enfants, de femmes, d'hommes qui pourraient se refaire une vie. Tu sais, moi, j'ai un jour eu une blonde, son ex était tellement weirdo que j'ai eu peur. OK, genre d'ex qui avait mis de la crazy glue dans les serrures de char de chum qu'elle avait eu après lui. Genre d'ex que moi, j'avais croisé un jour à 1h du matin puis que le lendemain, mon char avait 2 crevaisons. Genre d'ex qui voyait ses filles très, très occasionnellement puis qui, par un beau samedi, disait qu'il viendrait chercher ses filles. Ses filles se préparaient, se faisaient jolies, faisaient leur petite valise, puis le père ne venait jamais. Tu sais, des harceleurs comme ça, il y en a beaucoup dans le quotidien de nos vies. Ce sont pas des tueurs, mais certaines déploient parfois une telle méchanceté que subissent les petits. Donc, en même temps, j'avais cette réflexion-là aussi à travers ce drame-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans nos vies, comme pour avoir une espèce d'effet miroir? Tu comprends ce que je veux dire?
Hein? Oui,
ça peut être tordu un peu ce que je dis, mais je pense qu'il faut avoir le courage d'aller là, puis de s'interroger nous-mêmes sur nos propres comportements par rapport à ça. Et en termes de ressources, oui, il y en a des ressources, tu comprends? Tu sais, aujourd'hui, j'ai laissé un message à... J'en parle avec beaucoup d'émotion. À Raymond qui s'occupe de la valorisation du recrutement. Je voulais lui demander un renseignement, mais je voulais surtout lui dire, regarde, merde, si t'as besoin de gars pour tenir des conférences, si t'as besoin de quoi, là, je vais être là. Si tu comprends? Je vais être là pour essayer de faire bouger les affaires. Parce que c'est comme cette impuissance-là est très difficile. Tu sais, je te parlais de mes policiers la semaine passée avec qui j'avais patrouillé toute une nuit. Puis, un moment donné, pendant la nuit, je leur avais demandé à ces policiers-là, c'est quoi les choses les plus difficiles que vous vivez? Puis, un moment donné, il s'était ouvert, franchement, il dit, Vincent, il dit, quand on arrive sur une scène, là, puis on le sait que l'homme a battu sa femme, puis que les enfants sont là apeurés, puis que la femme est là apeurée, puis on peut rien faire parce que il y a un silence, puis il y a une peur, puis il y a pas de plainte qui est déposée. C'est les voisins qui ont entendu. Puis nous autres, on sait qu'on va devoir revenir dans une semaine, puis on sait que cette situation-là va peut-être créer d'autres violences. Alors, je pense que c'est tellement complexe comme affaire, mais je pense qu'il faut que nous autres, on ait l'honnêteté de se regarder puis de se dire, hey, wow, moi, dans ma vie, là, où est-ce que je peux prendre ça pour transformer cet événement-là en lumière, en quelque part? Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, puis moi, j'ai envie de dire Vincent, si tu me permets, j'ai envie de dire aux femmes à l'écoute qu'au premier signe, au premier signe de violence psychologique, même, attendons même pas les coups, là, il faut agir, il faut faire quelque chose, soit partir si c'est un début de relation, soit aller chercher de l'aide ou en parler, à tout le moins en parler. Parce que souvent les femmes s'enferment dans ça et à cause des enfants ou de la peur de ne pas être capable de vivre pour toutes sortes de raisons, que ce soit financière ou même amoureuse. Il y a des femmes qui aiment l'homme qui les frappe. C'est un amour tordu, mais c'est important de le dire aussi. Moi, je vais te dire une chose.
L'homme.
Oui.
Oui.
Continue. Vas-y, Vincent.
Bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ma fille est travailleuse sociale.
Oh. Oui.
Ça me touche de choses et de ça, parce que ma fille est travailleuse sociale. Elle a travaillé dans des maisons d'hébergement pour femmes, tu sais. C'est incroyable le support que les femmes peuvent avoir aussi, tu sais, dans ces lieux-là.
Oui.
Et je suis d'accord avec toi. Il faut en parler, puis il faut aller vers ces ressources-là. Il faut sortir de la solitude, de cette solitude-là, tu sais.
Oui, parce qu'elle est profonde, elle est difficile. Moi, j'ai envie de te dire une chose aussi que j'ai apprise. Tu sais qu'on apprend toute notre vie, hein? Et je vais te dire une chose que j'ai entendue à une émission que tu connais, que je ne nommerai pas pour toutes sortes de raisons, mais tu connais bien cette émission et j'ai appris une chose immensément importante pour le reste de mes jours, c'est que la colère ne dure jamais plus de 48 heures. Je pense que tu as entendu ça toi aussi.
Oui, j'ai entendu ça aussi.
Moi, ça m'a frappé totalement d'entendre cette psychologue, cette personne dire quand vous êtes vraiment, vraiment fâché, bien, acceptez-le, restez avec ça, là, puis vous allez voir, ça s'en va tout seul. Ça finit par s'en aller tout seul. Si, mais il faut l'accepter.
Oui, mais puis il faut la reconnaître aussi. Tu sais, il faut la reconnaître, il faut la voir, la colère. Tu sais, c'est comme une maladie qui monte. Puis à un moment donné, quand tu la sens arriver, là, Il faut savoir la reconnaître.
Oui, tout à fait. Écoute, Vincent, on avait un autre sujet. Si tu es d'accord, on le garde pour demain parce que je trouve que ça ne fit plus du tout avec notre discussion. C'est les millionnaires qui signent une lettre pour payer plus d'impôts. On fait ça demain. Merci beaucoup, Vincent, de ton honnêteté, de tes émotions. C'est très précieux. Merci à toi.
Je vous embrasse.
On t'embrasse aussi. Salut.